Au lieu de l'histoire, en Pays de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vais vous faire découvrir les hauts lieux de l'histoire des Pays de Savoie. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des Pays de Savoie et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder l'identité savoyarde. Aujourd'hui, ce lieu dont je vais vous parler est la barrière de l'Essayon, un bel exemple d'architecture militaire en montagne. Souvent, pour toutes sortes de raisons, des pays cherchent à protéger de leurs voisins et les frontières s'enguirlandent de citadelles, forteresses, casemates. La Grande Muraille de Chine en est l'exemple la plus célèbre. Obstacle naturel, une chaîne de hautes montagnes constitue également une ligne de défense efficace dans laquelle une armée peut résister plus ou moins longtemps aux attaques d'un ennemi supérieur en nombre et pour sécuriser encore davantage une région ou bâtie sur des éminences un fort. Après l'abdication de Napoléon Ier, le congrès de Vienne de septembre 1814 à juin 1815 réunit les puissances européennes afin d'établir de nouvelles frontières au sein du vieux continent. L'ensemble de l'Europe monarchique afflue dans la capitale autrichienne et même si le congrès s'amuse dans des fêtes grandioses, il prend des décisions importantes. Vaincu, la France, représentée par l'habile Talleyrand, tente de conserver malgré tout une place de choix. Elle doit cependant rendre le Piémont, Nice ainsi que la Savoie au royaume de Sardaigne et lui verser de fortes indemnités de guerre. Méfiant, Victor Emmanuel Ier, prince de Piémont et duc de Savoie, n'oublie pas que Napoléon a fait ouvrir entre 1802 et 1805 une bonne route au col du Mont-Cenis, offrant par la même à ses troupes un accès direct de la Maurienne vers l'Italie. Aussi, pour éviter une nouvelle invasion française, le roi Sarde estime-t-il urgent de bâtir à cet endroit des ouvrages défensifs. L'Autriche approuve ce dessein conforme à ses intérêts et Vienne ne se fait pas prier pour envoyer sur place une délégation chargée d'étudier la configuration des lieux. D'emblée, l'endroit s'avère séduisant, en amont d'Avrieux, près du hameau de l'Essayon sur la commune d'Aussois, évoque un lieu difficile d'accès, escarpé, que l'on ne peut aborder que par des degrés taillés dans la pierre. Les marches dont il s'agit mesurent une bonne centaine de mètres de haut et c'est donc au sommet de plusieurs d'entre elles, à une altitude moyenne de 1300 mètres, que l'on décide de bâtir les forts. De 1817 à 1834, grâce aux indemnités de guerre versées par la France, un ingénieur militaire piémontais, Antonio Francesco Olivero, réalise ces fortifications défensives en appuyant les théories de Marc-René Montalembert. Doté de murs épais et de tours à canon, disposant d'une grande puissance de feu, quatre forts sont implantés sur la rive droite de l'arc, doivent barrer la route à l'ennemi, suivant une ligne de défense perpendiculaire, tout en se protégeant mutuellement par des tirs croisés, tandis qu'une redoute, ouvrage plus moderne, occupe la rive gauche du torrent qu'enjambe le pont du Diable. Chacune de ces constructions, formant la barrière de l'Essayon, porte le prénom d'un dignitaire de la Maison de Savoie. Le fort Victor Emmanuel, appelé aussi Grand Fort, visible de loin, est le plus imposant des quatre. Épousant la pente, il se compose d'un vaste ensemble de 8 bâtiments à double niveau, destinés à recevoir jusqu'à 1500 hommes placés sous l'autorité du gouverneur, 35 canons, des munitions, des vivres, des fours à pain, une chapelle, un hôpital de 60 lits, 2 puits, des cuisines, des chambrées et situé légèrement à l'écart une poudrière ainsi qu'un pénitencier. Faute de prisonniers ennemis, les cachots n'accueillent que les pauvres troufions indisciplinés ou portés sur la bouteille et des civils indésirables, trop turbulents aux yeux de la monarchie sarde, laquelle trouve ici un lieu rêvé pour éloigner les opposants politiques des libéraux, les plus souvent construits au nord de Victor Emmanuel, le fort Jacques Félix, plus petit, en forme d'étoile, armée d'une dizaine de batteries, domine une falaise abrupte et quasiment infranchissable. Le fort Marie-Christine, bâti à 1500 mètres d'altitude, est le plus élevé du dispositif. De forme hexagonale, occupé par 150 hommes abrités de casemates, il dispose, répartis sur trois niveaux, de 20 pièces d'artillerie censées protéger la route menant à Ossoy ainsi que les deux autres bastions précités. Un peu plus au sud, isolée de l'autre côté de l'Arve, la redoute Marie-Thérèse défend le passage sur la route du Mont-Cenis. En forme de fer à cheval irrégulier, elle est ravitaillée depuis le fort Victor-Emmanuel à l'aide d'un treuil et d'un câble, puis le lancement d'une passerelle au-dessus du torrent assure une meilleure circulation des soldats et des marchandises. À l'arrière de l'ouvrage, un cimetière accueille les défunts de la garnison. Enfin, dernier bastion mis en chantier, le fort Charles-Albert, chargé de couvrir le fort Marie-Christine, et ne sera quant à lui jamais terminé. Malgré les imperfections, cet ensemble architectural de belle allure dissuade l'ennemi d'engager des hostilités et les forts de l'Essayon ne tirent pas le moindre coup de canon. Du reste, dès son arrivée au pouvoir, Napoléon III, le 2 décembre 1852, apporte son soutien aux populations de l'Italie du Nord désireuses de s'affranchir de la puissance autrichienne et comme nous l'avons vu dans le chapitre consacré au château de Toranglière, l'empereur se lie d'amitié avec Camille Cavour, chef du gouvernement piémontais et auteur de l'unité italienne. En contrepartie, la France récupère Nice et la Savoie. Devenue inutile, la barrière de l'Essayon est vouée à être détruite sur les ordres de Napoléon III et après trois jours de tirs d'artillerie, le fort Charles-Félix est rasé. Ici, heureusement, s'arrête la démolition. Les ouvrages restants deviennent des lieux de manœuvre où accueillent des bataillons disciplinaires. Pour les Mauriennais, ils font partie de leur décor de famille. En juin 1940, des troupes françaises de l'armée des Alpes occupent la redoute Marie-Thérèse, tandis qu'après l'armistice, soldats italiens puis allemands y enferment les résistants tout en retenant la place jusqu'à la libération. En 1970, une association de jeunes bénévoles se fixe pour objectif de redonner vie à ce patrimoine militaire alpin tombé dans l'oubli. Chaque été, des chantiers de restauration bruissent aux accents des quatre coins de la France et grâce à un travail acharné avec l'aide des collectivités locales, le fort Marie-Christine abrite un restaurant, un gîte d'étape, un salon de thé. La redoute Marie-Thérèse héberge un centre d'interprétation du patrimoine fortifié, ouvert au grand public. Et en 2017, tandis que le fort Victor-Emmanuel incite à la découverte historique avec un jeu de piste sur les pas d'un certain Alessandro, jeune soldat sarde en garnison au fort vers 1840. Enfin, pour les amateurs de sensations fortes, la commune d'Ossoy propose la Via Ferrata du Diable, la plus grande de France, 3760 mètres, composée de 7 tronçons indépendants, suspendus au bord de la gorge de l'Arc, s'accrochant aux murs d'enceinte du fort Victor-Emmanuel et à ceux de la redoute de Marie-Thérèse, empruntant la passerelle Melchior, 83 mètres, deux câbles pour s'agripper les mains, la plus longue du monde, en Via Ferrata. Cette chronique est tirée d'un livre de Pierre Hoffmann, Au lieu de l'histoire en Pays de Savoie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.